Messieurs, dames, bonsoir. Vous écoutez bien le studio Kalangou. Il est 18h. Bienvenue à ce journal. Et voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. 10 blessés et plusieurs dégâts matériels, c'est le bilan d'une bagarre hier nuit entre militaires et jeunes de la ville de Tillabéri. Le secrétaire général de l'association Tillabéri, Borey Machardi, explique. Mobilisation d'un collectif de syndicats de l'éducation à Zender. Ils entendent défendre le site d'une école vendue par la mairie de la ville. Les échos dans ce journal. Les conditions de vie des personnes handicapées en période de la COVID-19, on en parle dans la partie magazine avec la Fédération nigérienne des personnes handicapées qui a récemment lancé un cri de cœur. Au moins 10 blessés et plusieurs dégâts matériels enregistrés hier nuit dans une bagarre entre militaires et jeunes de la ville de Tillabéri, selon Aliou Maman, secrétaire général de l'association Tillabéri, Borey Machardi. Tout a commencé dans un débit de boissons avant que l'incident ne se répande dans certains quartiers de la ville. La population s'est regroupée ce matin devant le gouvernorat. Pour plus de détails, Aliou Maman est joint par Tana Foud Ahmed.
On a passé une nuit tragique de la part des militaires de la compagnie Djaga de Tillabéri. Dans la nuit du lundi, il y a eu une bagarre entre les jeunes et les militaires des Zembars qu'on appelle satellites. Là, ils ont eu des affrontements. Hier soir, ils étaient encore venus. Ils ont commencé à taper les gérants des bistrots. Les serveurs sont rentrés de la ville. Ils ont fait beaucoup de dégâts. Hein. Là, on n'arrive pas à avoir le nombre de dégâts matériels. Il y a eu des blessures. On les a amenés à l'hôpital.
Monsieur Aliou, est-ce que vous avez le nombre de personnes blessées?
On a compté une dizaine. L'autre était en ville, il se va présenter au niveau du CHR régional. Seulement, nous sommes en face du gouverneur, on attend le gouverneur.
Qu'est-ce que vous voulez dire au gouverneur exactement?
Cette affaire, en tout cas, se répète à chaque 2 ans. Ça s'est fait en 2016 et en 2018. Nous voulons mettre fin à cette situation. On demande une justice vraiment équitable face à cette situation.
La violence policière sur les populations civiles est de nos jours devenue récurrente dans les sociétés, notamment sur des personnes considérées à tort ou à raison comme ignorant la loi. Au Niger aussi, cette violence est une réalité et à certains degrés sur laquelle les avis des citoyens divergent. Écoutons quelques-uns au micro de Moussa Hassan.
De nos jours, au vu des réalités qui se passent, comment ça se remettre en question le rôle de la police? Certes, on ne peut pas généraliser ce type de phénomène.
La violence policière au Niger se développe même au niveau des manifestations, des contrôles routiers. Par exemple, quelqu'un qui est sur une moto, au lieu de l'arrêter calmement, le policier va le tirer sur la moto. Parfois, il cause même des actes. Je vous rappelle même, pendant les manifestations de 2017 à l'université, il y a eu une vidéo partagée sur les réseaux sociaux qui a montré des policiers en train de tabasser un étudiant.
Le fait d'agresser, c'est pas tous les policiers qui font ça. Il y a d'autres, c'est leur caractère propre à eux. Ou bien c'est la personne qui va commencer à parler mal avec le policier.
Plusieurs centaines de réfugiés maliens et de déplacés internes du camp d'Intinikan, région de Tawa, victimes d'une attaque d'hommes armés le dimanche 31 mai 2020, se sont réfugiés au village de Telens, dans le département de Tidia. Selon le chef de ce village, Galiou Abbétane, ces personnes sont traumatisées et ont besoin d'une assistance d'urgence. Il est joint au téléphone par Tanan Foudé Ahmed.
Les réfugiés ont des attentes. Nous avons ensemble avec les FDS qui sont ici chez nous et nous les avons accueillis et nous avons ensemble identifié un terrain qui peut contenir tout le monde. Donc dans un premier temps, nous avons demandé aux réfugiés qui sont venus de s'installer dans les familles, s'ils ont des connaissances ici au village ou bien s'ils ont des parents pour s'installer chez eux d'abord. Donc les gens étaient solidaires avec eux. Nous avons partagé le peu que nous avons arrêté. Donc les humanitaires ici, je pense que tout sera mis en ordre pour que ces gens puissent reprendre leur vie normale. Ils commencent à installer leur hangar, ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, ils attendent l'appui du HCR ou bien des bonnes volontés.
Vous avez accueilli ces réfugiés. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit sont-ils?
Ils sont très traumatisés, ils ont beaucoup peur. Il y a d'autres qui disent que même si on amène toute l'armée du Niger à Intikan, ils ne vont pas retourner parce qu'ils ont fui le combat au Mali, c'est pour cela qu'ils sont venus au Niger. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas retourner à Intikan, surtout ce que nous avons vu là hier, nous avons beaucoup fait.
À peine l'école rouverte au Niger qu'un collectif de syndicats en éducation se mobilise au niveau de Zender pour défendre un site d'une école vendue par la mairie de la ville. Ce collectif a déposé un ultimatum de 72 heures qui expire ce mercredi 3 juin 2020. Si rien n'est fait, explique-t-il, une grève d'avertissement de 3 jours sera observée à compter de demain. Mohamed Oumour, membre de ce collectif, au micro de Moustapha Mansani.
Le SNED nous a approchés et aussi d'autres syndicats de l'éducation. Nous avons constitué un collectif pour faire un front commun par rapport à cette question de ces maisons. Nous, à notre niveau, nous considérons cet ultimatum que nous avons déposé comme un appel pressant à l'endroit de la mairie centrale. Cette mairie centrale a une mission régalienne qui lui est dévolue par le transfert de compétences dans le cadre de l'émancipation, du développement des écoles de notre pays. Et il se trouve qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'espace Aïssatou Kondo, c'est un espace vraiment qui est trop réduit, qui ne remplit pas les normes pour une école, parce qu'on dit pour un terrain d'école, il faut 2,5 hectares. Maintenant, si on lui retire ces locaux, qui, quand on le met ensemble avec le terrain actuel de Aïssatou Kondo, peut suffire pour respecter les normes d'un terrain de l'école. Ce n'est pas une solution pour nous, la grève, surtout dans ces moments exceptionnels. Et les uns et les autres doivent le comprendre. Mais il est de notre responsabilité, il est de notre devoir de défendre l'intérêt de l'école.
Deux nouveaux cas positifs d'infection à la COVID-19 ont été enregistrés au Niger à ce 2 juin 2020, dont un cas à Niamey et un autre à Zender, selon un communiqué officiel du ministère de la Santé publique. À ce jour, sur un total de 4 757 personnes testées, 960 sont déclarées atteintes par la COVID-19, 65 sont décédées, 47 en cours de traitement et 848 sont sorties guéries, indique le même communiqué. La fermeture des frontières, l'une des mesures prises par les autorités nigériennes dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, a impacté l'économie du département de Bilma, région d'Agadez, selon le préfet. Bilma faisant frontière avec le sud libyen, tout son ravitaillement se fait à partir de ce pays. Le préfet de Bilma, Boudou Fatoumi, au micro de Moussa Mamane.
Le département de Bilma et tout le Kawar se ravitaille de la Libye. Une petite partie qui vient se ravitailler au niveau d'Agadez. Donc il y a la fermeture de frontières qui nous a donné beaucoup de difficultés parce que c'est la Libye qui nous ravitaille en grande partie. Et au niveau d'Agadez, le convoi militaire a été suspendu. On ne peut pas prendre le risque de venir payer des marchandises et se faire attaquer sur la route et se faire dérober de tous ses biens. Donc vous voyez, ça a eu beaucoup d'impact sur l'économie du Kawar. Les prix des denrées a flambé. Le carburant aussi, on se ravitaille à partir de la Libye. Tout a augmenté. Les prix ont doublé, deux fois même triplé.
Du 15 au 29 mai, un consortium de start-up nigériens a lancé le Corona Hackathon, une compétition digitale à l'issue de laquelle ces projets proposant des solutions fiables et innovantes dans la gestion de la COVID-19 seront sélectionnés et primés. Après l'enregistrement des candidats, c'est le début de la compétition ce lundi sur le site internet de l'événement en coronahackathon.org. Al-Mokhtar Seni, l'un des membres du consortium, nous donne plus de précisions.
La première étape s'est déroulée d'abord par la mise en ligne de une plateforme. Ensuite, une communication a été faite sur les différents réseaux sociaux et par des campagnes SMS pour informer le public, lui présenter le Corona Hackathon et appeler les jeunes à s'inscrire pour tout projet qu'ils ont qui peut contribuer à la lutte contre le COVID-19. Nous avons enregistré 224 candidatures venant des 8 régions du Niger plus de la diaspora. Nous avons eu un jury pour procéder à la présélection des candidats qui vont suivre le hackathon à proprement dit.
Quels étaient les critères sur lesquels les jurys ont travaillé?
Alors, il y avait d'abord la faisabilité, le caractère innovant du projet, la viabilité et ensuite le fait que le projet ait un modèle économique ou pas dans l'écosystème, c'est-à-dire s'il a un apport approprié et qu'il peut être en fait vendable.
À propos recueilli par Olivier Assoubavi, la finale est prévue le samedi 6 juin 2020. Dans la région de Maradi, la situation du pâturage cette année reste préoccupante dans la commune de Gadabéji, département de Barmo. Doulou Boubacar, un éleveur de la commune, craint la perte de son cheptel si rien n'est fait pour les aider.
Maintenant, après dur, les animaux ont beaucoup de difficultés, car non seulement ils sont affamés, mais également le pâturage n'est pas consistant. Ils douanent pour un élevage nourrissant. Le pâturage n'a aucune substance nutritive pour l'animal. C'est pourquoi, bien qu'ils sont sur cet espace de pâturage, la situation nous oblige à les alimenter avec du foin. Nous n'en disposons pas sur place, sauf si nous partons l'acheter au marché. Et il coûte très cher, 7 000, 8 000 francs CFA et parfois même 9 000 le sac. Et voyez-vous, acheter un sac pour 40 têtes de bétail, ce n'est pas suffisant. L'appel que nous lançons, c'est de nous venir en aide avec des aliments de bétail. Nous sommes dans le grand besoin. Si toutefois l'opération ne commence pas dans ce mois et que la saison de pluie commence, eh bien c'est la catastrophe, le bétail va succomber. Mais si à l'avance, on arrive à trouver ces aliments de bétail, leur situation va un peu s'améliorer, sinon le bétail va disparaître.
Salut frérot, comment tu vas?
Ouais man, je vais bien, Dieu merci, et toi?
Oh, ça crache, le réseau n'est pas bon.
Bah pourtant, je te reçois bien.
Ah, c'est bien, donc, et les activités?
Parler d'activités en ce moment, c'est difficile, tu sais. Mon oncle qui est de retour du voyage là, apparemment, lui, il va pas bien. Hein?
Ah oui? Comment tu as réussi à savoir?
Il tousse, il a le corps chaud, des problèmes de respiration, vraiment que des symptômes bizarres.
Mon frère, voici les conseils que je te donne. Il ne faut pas sortir de chez vous. Il ne faut pas non plus donner l'occasion aux autres de venir chez vous. Il faut surtout appeler le 15. À la minute près, une équipe sera chez vous pour prendre votre oncle en charge et diagnostiquer l'état de santé de toute la famille. Ne néglige pas. Il faut isoler votre oncle et chercher aussi les bavettes pour qu'il couvre sa bouche et son nez.
Mais pourquoi tout ce protocole?
Tu sais pas, il y a un virus qui circule partout. Hein. Personne n'est épargné. Je veux parler du coronavirus.
Subhanallah, la situation est sérieuse. Que je raccroche. Je vais informer toute ma famille et appeler rapidement le 15.
Il ne faut pas oublier toutes les personnes qui étaient en contact avec lui.
Merci beaucoup, man.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
La partie magazine de ce journal à présent, avec l'apparition du coronavirus en mars au Niger, la Fédération nigérienne des personnes handicapées par voie de presse a alerté l'opinion publique sur les conditions de vie de ses membres. Quelques semaines après ce cri de cœur, qu'en est-il de leur requête? Les conditions ont-elles évolué? Sido Oumarou est le président de cette fédération et répond aux questions d'Olivier Assobavi.
Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que la réponse est en train d'être inclusive. Il y a quelques points d'amélioration, mais dans l'ensemble, on peut remercier Dieu et remercier les autorités sur le fait que, d'abord, la communication à la télévision a été améliorée. On voit de temps en temps des interprètes en langue de signes. Il y a aussi le fait que le soutien aux personnes vulnérables est en train d'être vraiment inclusive. Je prends seulement pour preuve la distribution gratuite. Nous sommes vraiment contents. Par exemple, à Niamey, il y a eu plus de 2000 ménages de personnes handicapées qui vont être concernés.
Est-ce que vous avez des nouvelles de ceux de l'intérieur du pays?
Oui, à l'intérieur du pays, dans chaque région, il a été demandé à nos sections régionales de procéder au listage des personnes, des ménages handicapés vulnérables. Ceci a été fait. Je sais qu'à Zender, il y a eu une petite intervention, mais nous avons aussi l'espoir.
Alors, outre l'État, vous-même au niveau de la fédération, est-ce qu'il y a eu des efforts?
Alors, dès le début, comme vous l'avez dit, on a réalisé ce point de presse pour attirer l'attention des autorités. On a réalisé 3 spots de sensibilisation en français, en germain et en haoussa. Des spots de sensibilisation qui sont surtitrés et qui ont été interprétés en langue de signes. Et nous avons aussi sollicité l'aide des partenaires. On a soutenu 1078 ménages. Nous avons été plus loin et nous allons bientôt intervenir avec un cash transfert au profit de 1200 ménages. Nous allons transférer directement dans les ménages la somme de 35 000 francs en transfert unique pour 1200 ménages. Et nous avons à l'intérieur du pays, à travers notre section régionale de Zender, assisté aussi les personnes handicapées, les ménages vulnérables, à travers un soutien avec des bavettes et des dispositifs de lave-main. À Difa, nous sommes en train de répliquer la même situation où nous allons aussi communiquer en langue berbéri et fulatani et nous allons aussi assister des ménages vulnérables dans la région de Difa.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du programme de Studio Kalangou tout de suite après le forum de Studio Kalangou qui a pour thème ce soir le respect du droit à l'image sur les réseaux sociaux au Niger. Présentation Fatih Zakari. Suivez le Studio Kalangou à Niamey sur Tambara 107 FM.